RCF.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Neuvenronnais, chemin de pensée. Vous êtes en compagnie de Sylvain Cantassevier pour le troisième et dernier volet de l'interview de Solène Bardet à propos du peuple Himba. Alors, dans les deux premiers volets, nous avons pu découvrir un peu de l'histoire de ce peuple de pasteurs semi-nomades de Namibie qui vit encore aujourd'hui en quasi-autarcie et qui reste très attaché à ses traditions ancestrales alors qu'ils sont en contact avec la société moderne. La question de la possibilité d'une coexistence entre deux civilisations aussi différentes a été posée et nous a elle-même amené à d'autres réflexions, notamment sur la notion de liberté. Nous avons vu également que plusieurs dangers menacent ce peuple, et notamment autour de la question de l'eau. D'un côté, un projet de construction d'un barrage sur leur territoire menace leur communauté, alors qu'eux-mêmes doivent creuser des puits de plus en plus profonds, plus de 100 mètres de profondeur, pour trouver de l'eau pour eux et leurs troupeaux. La question de la possibilité d'une coexistence à long terme entre deux civilisations aussi différentes a été posée et nous a elle-même amené à d'autres réflexions, notamment sur la notion de liberté. Cela dit, pas d'inquiétude. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient raté les deux épisodes précédents, vous pourrez les retrouver en ligne sur le site de RCF. Mais maintenant, il est temps de retrouver Solène Bardet pour la dernière partie de son interview.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Pensez-vous que entre ces deux sociétés qui sont finalement, d'une certaine façon, qui ont des systèmes de fonctionnement assez différents, enfin même opposés d'une certaine manière, parce qu'il y en a un qui est plutôt communautaire et l'autre qui est plutôt individualiste quand même.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez que une cohabitation est possible en fait, sans qu'il y ait de perdants au final, à long terme ou à moyen terme ?
Non. Non, parce que notre société n'est pas une société qui est vraiment, dans le fond, dans le respect de la différence de l'autre. Exemple, ce projet de barrage.
Oui.
Voilà. Enfin, quand vous parlez de cohabitation, c'est dans quel sens ?
Parce que ne serait-ce que le fait qu'ils arrivent à cohabiter dans le sens où les Himba puissent rester dans leur territoire avec leur mode de vie, de manière indéfinie dans le temps. Donc une cohabitation à long terme dans le sens où est-ce que notre société qui a une grosse tendance englobante et uniformisante ne va pas être tentée, et d'ailleurs c'est déjà un peu le cas avec cet exemple de barrage, de finalement grignoter le territoire d'Himba et puis d'imposer un modèle technologique, scientifique, économique de notre société à ce peuple en fait.
Si, la question, c'est à quelle vitesse ?
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une solution à long terme ?
Si le barrage se fait, non. Après, il y a 20 ans, tout le monde disait « dans 20 ans, il n'y aura plus de Himba ». Et aujourd'hui, en fin de compte, alors certes, ils ont des téléphones portables, ils ont des comptes en banque, mais il y a plein de villages, moi j'y vais, je ne vois pas la différence entre... Aujourd'hui, il y a 20 ans, le mode de vie, le quotidien est vraiment le même. Il y a des petites choses qui changent, mais l'essentiel n'a pas vraiment changé. Donc aujourd'hui, tout le monde dit, à nouveau, dans 20 ans, il n'y aura plus de Himba. Si le projet de barrage ne se fait pas, ce n'est pas sûr. S'il se fait, bien sûr que ça va accélérer les choses de manière
dramatique.
Voilà. S'il ne se fait pas, bien sûr qu'il y a des choses qui se perdent. Bien sûr que les gamins qui vont à l'école, ils connaissent de moins en moins de choses. Oui, il y a des gamins auxquels j'apprends des choses aujourd'hui sur les traditions Himba, ce qui n'est pas normal. Mais il y a encore quelque chose de très solide aujourd'hui. Bien sûr que nous, occidentaux, on pourrait regretter dans 20 ans, par exemple, qu'il y ait une uniformisation et qu'on n'ait plus... ces Himba, si différents de nous, qu'on aime justement regarder parce qu'ils sont différents. Pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. L'important, c'est que les Himba aient le sentiment de pouvoir choisir eux-mêmes, sentiment d'être maîtres de leur destin, de leur avenir, et qu'ils restent des hommes et des femmes tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire bien plantés, qui tiennent bien debout, bien solides, qui savent qui ils sont. Voilà. Si, dans 50 ans, ils gardent cette même force en jean, moi, j'y vois pas de problème.
Oui, qu'il y ait une certaine adaptation, mais en sachant ce qu'ils font, quoi, d'une certaine manière, et en gardant leur...
S'ils évoluent comme les Bushmen, complètement paumés, alcooliques, voilà... C'est pas ce qu'on peut leur souhaiter.
Justement, quand on voit ce qui se passe, la question en fait que je posais, c'était aussi un petit peu d'une certaine façon, est-ce que notre société va tolérer qu'une autre société puisse subsister qui est très différente d'elle en fait?
Alors, par exemple, le gouvernement namibien, un gouvernement noir, veut vraiment sédentariser les Himba, la destruction de leur mode de vie traditionnel, clairement. Et pour les Noirs namibiens, enfin, on va dire pour beaucoup de Noirs namibiens, le fait que des Himba vivent encore à moitié seins nus, comme ça, sur le territoire namibien, c'est une honte. Il y a une parlementaire qui m'a dit une fois, mais enfin, madame, même dans la Bible, Adam et Ève ont fini par s'habiller. Et pour eux, voilà, il y a ces Blancs qui veulent continuer, qui voudraient faire un musée des Himba pour pouvoir aller les voir comme au zoo. On va voir des éléphants, des Himba, parce qu'on n'en a pas chez nous et que c'est différent. Et ils n'ont pas complètement tort par rapport à certains membres.
C'est vrai qu'il peut y avoir un risque de déviation de ça, en fait. Quelque chose qui, au départ, est positif, hein, une volonté de préserver et qui puisse se transformer...
Mais oui, ils n'ont pas complètement tort.
Chose.
Pourquoi est-ce que tant de touristes viennent voir les Himba? C'est quand même pas...
C'est une question intéressante.
Oui. Ouais. Apparemment, ils en ont besoin.
C'est des
moments forts, c'est des voyages chers. Donc, je rencontre beaucoup de gens qui ont économisé pendant des années pour aller voir les Himba. C'est quelque chose, ça représente quelque chose de très fort pour eux. Mais c'est pas évident et souvent la rencontre ne se fait pas en plus. Parce que les touristes ont trop peu de temps. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas quelque part un. Est-ce qu'on ne voit pas chez les Himba quelque chose que nous-mêmes avons perdu d'une certaine façon?
Si, bien sûr, il y a un fantasme du Himba qui n'est pas forcément très sain hein, et qui est vraiment très fort chez les Himba en particulier, par exemple pour les Bushmen, donc autre ethnie qui vit en Namibie et au Botswana. Il y a une période où on disait qu'il y avait un anthropologue par Bushman. Chez les Himba, il y a très 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 peu d'anthropologues, mais il y a une période où il y avait un photographe par Himba.
Ah oui.
Et parce qu'ils sont si beaux et qu'ils sont... la première fois que quelqu'un voit Himba, en général, il a un vrai choc culturel. En effet, tout le monde s'intéresse à leur aspect physique, esthétique, mais c'est comme si ça faisait barrage un peu pour aller voir plus loin.
Ouais, pour aller voir...
Et il y a énormément de photos, de livres photos sur les Himba, mais en ouvrage de fond, il n'y a rien, quasiment. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ce qui est fait sur eux, en fait, est là pour...
Reste superficiel.
Voilà, puis pour valider cette vision, quelque part, du beau sauvage.
Ouais.
Moi, je m'en suis rendu compte avec les films qui étaient faits sur les Himba. Notamment un film, un des premiers films qui avait été fait sur les Himba, qui était filmé dans ma famille adoptive. Et en fait, quand je l'ai vu... D'abord, je n'ai pas reconnu les Himba avec qui j'avais pas... Je venais de passer des mois et des mois. Et je les voyais faire des rituels étranges jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'y assistais tous les matins. Et j'ai compris au bout d'un moment que c'était la manière dont ils étaient filmés.
Qui changeait le regard.
Oui, qui faisait que j'avais l'impression qu'ils étaient lointains, loin de moi, si étrangers, etc. Et la plupart des films que moi je vois sur les Himba, j'y vois la vision... du réalisateur, la vision des Blancs sur les Himba. Mais moi, je ne reconnais pas du tout les Himba. Je ne reconnais pas du tout l'atmosphère, l'ambiance de ce que je vis là-bas.
D'accord. Alors d'ailleurs, on peut noter que vous avez fait un film avec les Himba, pour le coup.
Justement, suite à... En fait, à partir de 2007, tous les ans, à chaque fois que je retournais là-bas, j'essayais de récupérer tous les films qui avaient été faits sur les Himba et de les leur montrer. Et là, j'ai réalisé la première année d'abord qu'il y avait parfois des Himba qui avaient joué dans 10-15 documentaires, mais aucun d'entre eux n'avait jamais vu la moindre séquence montée. Et donc, avant de voir les films que je leur amenais, ils ne savaient pas du tout ce que faisaient ces gens avec des caméras. Et après les premiers films, ils ont dit « Ah oui, maintenant on comprend. On comprend à quoi ça sert un film. Ça raconte quelque chose, ça dit des choses. » Avant, on croyait que tous ces gens, ils jouaient. Voilà. Et au fur et à mesure des années, en fait, ils ont commencé à être de plus en plus critiques. Jusqu'au moment où ils ont dit « Attends, il faut qu'on arrête là, toutes ces bêtises, ces erreurs qui se disent sur nous de film en film, toujours les mêmes. Voilà, il faut qu'on fasse notre propre film pour récupérer notre parole, pour prendre la parole. » Et ça a été vraiment une aventure très très forte. Chaque communauté, en fait, a désigné deux Himba qui le représentaient. Et au total, il y avait 21 Himba. Et avec ces 21 Himba, en fait, on a occupé un village Himba, hein, donc de vrais Himba, dans un vrai village Himba, mais des Himba qui venaient d'un peu partout. Et on a reconstitué la vie d'un village Himba, et chacun, en fait, a choisi son rôle. Et donc, ce sont des vrais Himba qui jouent un faux mariage, un faux enterrement, voilà, qui se mettent en scène, qui jouent une scène de drague, d'envoûtement, qui expliquent leurs recettes de cuisine. Ouais, voilà.
Et on voit la vie... Leur vie vraiment, quoi, au quotidien, un peu.
Ah ouais. Et expliquer, en fait, dans la plupart des documentaires aujourd'hui, ce sont toujours des Himba qui jouent au Himba, parce que les réalisateurs aujourd'hui passent 10 jours, 15 jours maximum, donc ils n'ont pas le temps d'attendre que les choses adviennent, voilà, de manière naturelle. Mais voilà, sauf que là, dans ce film-là, dans Les Himba font leur cinéma, c'est dit que ce sont des Himba qui jouent au Himba. Et on voit que ça les amuse beaucoup aussi.
Oui, il y a cette sincérité-là qui est effectivement très différente. Alors, par rapport, pardon, à ce que nous disions tout à l'heure sur les risques d'absorption de leur société par la nôtre, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de finalement de naturel, de peut-être positif ou pas forcément?
Pour moi, l'important, en effet, c'est... Qu'est-ce qui fait l'identité Himba? Bon, c'est pas évident de répondre à ça. Pour moi, c'est le lien aux ancêtres. Voilà. Donc, peu importe que le Himba en question, il soit en jean, il aille à l'université. Bien sûr qu'ils vont changer de mode de vie, mais ils ont déjà changé de mode de vie. Ça fait pas 3000 ans qu'ils vivent comme ça. Leur mode de vie, elle change constamment. Je vais raconter une petite histoire... comme ça, parce que je l'aime bien. Donc, traditionnellement, tous les ans, ils doivent aller sur les tombes de leurs ancêtres pour se faire soigner ou s'il y a des choses graves, ou au minimum, en gros, une fois par an. Les Himba étant semi-nomades, parfois, ils sont très loin de la tombe de leurs ancêtres. Donc, il faut marcher une semaine, 10 jours. Ouais. Ce qui ne leur posait pas de problème pendant des décennies. Et puis, les premières voitures sont arrivées, et là, ils se sont dit... quand même marcher une semaine, les voitures elles vont vachement plus vite. Et donc, ils ont inventé une nouvelle coutume, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se contenter de crier dans la direction de la tombe de l'ancêtre. Et c'était la première voiture qui passait, qui allait dans la bonne direction, qui emmenait les paroles jusqu'à la tombe de l'ancêtre.
Ah, ouais.
Voilà. Tradition qui a coutume qui a duré 7-8 ans, jusqu'à ce que les Himba aient leur propre voiture... et qu'en fait, ils emmènent eux-mêmes plein de Himba jusqu'à la tombe de l'ancêtre, et du coup, cette coutume est tombée en désuétude, parce qu'il n'y en avait plus besoin.
Il y a eu quelque chose qui a remplacé.
Tout ça pour dire, que moi, je n'ai jamais vu deux cérémonies identiques, et qu'à chaque fois, il y a même souvent un débat sur si c'est fini, ou si ça doit continuer, et comment, et non, c'est comme si, non, il faut mettre dans des petits pots, non, des grands pots. Il n'y a rien de figé. Et même dans les habits Himba, on voit dans le livre que, en fait, moi j'arrive à dater les photos de Himba
En fonction des habits.
En fonction des parures, parce qu'il y a des modes, il y a des périodes où on met la ceinture à l'envers, où les cheveux sont coiffés comme ci ou comme ça. Et quand on regarde des photos du 19e siècle, c'est encore très différent, les coiffures sont très différentes.
Oui, c'est vraiment une société vivante, quoi, tout simplement.
Tout à fait.
Il y a effectivement des mouvements internes.
Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que le jean a une capacité de prolifération énorme. Mais
Oui, c'est pas forcément un obstacle, en fait.
même avec un jean, on reste quand même très différents les uns des autres, hein, il me semble.
Alors justement, le peuple Himba, donc, au même titre que nous, évidemment, est habitant de la planète Terre. Du coup, c'est son patrimoine autant que le nôtre. Et nous pouvons constater, d'après d'ailleurs ce que vous décrivez dans vos ouvrages, que leur empreinte écologique, elle est plutôt positive sur l'environnement, puisqu'ils arrivent dans un endroit qui est quand même très, très, comment dire, hostile à avoir des troupeaux, à entretenir des herbages, en fait, hein, des pâturages. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir cette empreinte écologique qui est positive par rapport à nous qui avons plutôt un système négatif. Pensez-vous que cet exemple peut nous inspirer pour changer nos façons de nous développer, en fait?
Ouais, en tout cas, c'est la grande leçon que peuvent nous donner les Himba. En effet, c'est d'abord le minimalisme de leur vie. C'est-à-dire, les Himba, ils ont un pot pour traire les vaches, une calebasse qu'ils vont secouer pour en faire du lait caillé et du beurre, et c'est tout. C'est tout. Et ce qu'ils portent sur eux. Voilà. Et quand on va là-bas, on se rend compte à quel point on a de choses superflues, oui. Et ça fait du bien. Même les gamins, moi, ils jouent pendant des heures avec trois cailloux qui deviennent successivement des voitures, des sandwichs, du bétail, voilà. Il y a d'abord ça, on est vraiment dans l'excès, enfin, vraiment à l'opposé de notre société. On est vraiment dans le minimalisme total, et après, même en termes de paysage, hein, Ensuite, sur le rapport à leur environnement, oui, les Himba sont vraiment des champions. Enfin, personne ne serait capable de s'occuper d'aussi grands troupeaux de bétail dans un environnement aussi aride.
Aussi
Personne ne
hostile.
comprend comment ils font. Et c'est vrai que là où il y a des Himba, les pâturages sont toujours en meilleur état que là où il y a des Héros ou des Ovambo d'autres ethnies. Après, c'est quelque chose, ils n'en ont pas conscience, ils ont du mal à expliquer
Oui, bien
comment ils
sûr,
font.
ils le vivent comme ça, quoi.
Voilà.
Alors justement, par rapport à notre propre développement et donc notre rapport à nous concernant l'environnement, sans vouloir prôner l'ignorance, bien sûr, on peut quand même se demander, du coup, si ça serait utile, voire même bon pour les Himba, de les informer sur les dangers actuels environnementaux que notre activité à nous implique, en fait. Dans le sens où on imagine, alors peut-être que je me trompe, pas pour le coup, mais qu'ils auront de toute façon assez peu de moyens d'action, eux, sur ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on doit informer les Himba sur ce qui se passe dans le monde et les dangers qu'on fait courir à la planète? Ou est-ce que finalement on peut aussi leur éviter une inquiétude supplémentaire à laquelle ils peuvent rien faire?
Moi, je le fais. C'est-à-dire que c'est des choses dont on discute. Mais tout comme parfois, ils vont poser des questions. Ils ont entendu parler des volcans. Ils vont poser des questions sur ça. Oui, c'est des choses dont on parle et dont j'essaie de les rendre conscients. Même si eux n'ont quasiment pas d'impact, justement, sur l'environnement. Il y a d'autres endroits en Afrique. Je me souviens d'une fois où j'étais allée au Mali avec un agriculteur français, justement, où il leur expliquait, c'était vraiment important pour lui que oui, ici, nous, en France, enfin, lui, ça faisait 20 ans qu'il estimait qu'il avait fait des bêtises en mettant des produits nocifs dans ses terres, etc., et que maintenant, il en payait les conséquences. Et il voulait les prévenir de ça. Voilà, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Les Himba, en fait, n'ont pas la possibilité de faire beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Après, moi, je pense qu'il faut toujours mieux être conscient. Ils en subissent les conséquences, de toute manière, hein, puisque, je vous ai dit, il y a 20 ans, on trouvait de l'eau à 15 mètres. Aujourd'hui,
Oui,
c'est à
indirect, oui,
150
ils ont
mètres.
des conséquences directes.
Donc, aujourd'hui, ils en subissent plutôt les
Oui, c'est ça.
conséquences.
Mais pareil, moi je pensais plus à des choses sur lesquelles ils n'ont vraiment aucun moyen d'action, que ce soit les dangers nucléaire, hydrocarbures, toutes ces choses-là. C'est vraiment une question qu'on peut se poser en fait. Est-ce que parfois l'information est vraiment utile?
Oui, alors la question se pose pas vraiment. Là-bas, les Imbas sont des gens quand même très pratiques. Et ce qui n'a pas un intérêt pratique direct ne les intéresse pas. Donc c'est sûr que tous ces sujets-là. Déjà, je me souviens d'une deux fois où j'avais parlé de la mer. Ils me prenaient pour une folle. Jusqu'à ce que j'emmène une partie d'entre eux jusqu'à la mer. Donc parfois, en fait, j'ai des questions. L'un, un jour, a entendu parler d'une station d'épuration, que l'eau était traitée, qu'il y avait des médicaments dedans, qu'on la réutilisait dans la capitale. Donc on a parlé de ça, mais c'est quand même assez rare. Et ouais. Les Imba, ils sont dans leur présent.
Et du coup, ces discussions ou sur ces sujets qui peuvent être assez lointains pour eux, ça ne suscite pas forcément une inquiétude particulière. En fait.
Non, c'est pas concret.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais après, il y a plein de sujets. Vous parlez de risque atomique, tout ça. Non, ça, on n'en a jamais parlé. Ouais. Et en effet, je laisse faire. Si ça vient, ça vient. Mmh. Mais je ne suis pas là en me disant, il faut que je leur en parle.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Solène Bardet d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Ce qu'on peut nous vous souhaiter, c'est tout le succès possible à votre BD, Rouge Imba, ainsi qu'au projet bien sûr de l'association Koba Imba. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir à nouveau dans notre émission pour cheminer parmi les pensées philosophiques que peut nous inspirer le peuple Imba.
Merci à vous.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette discussion avec Solène Bardet. Discussion très riche, et pourtant, il y aurait encore beaucoup de questions intéressantes à lui poser en lien avec la philosophie. On peut penser notamment aux idées de Jean-Jacques Rousseau sur l'état de nature, mais aussi à des questionnements plus récents sur le dimensionnement des groupes sociaux, traité notamment par Olivier Rey dans son livre remarquable intitulé « Une question de taille » aux éditions Stock. Quoi qu'il en soit, cette série d'émissions avec Solène Bardet nous aura permis de découvrir, ou de mieux connaître, le peuple Imba, ses différences fondamentales avec notre société et les questions philosophiques que cela entraîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce peuple, je vous conseille les livres de Solène Bardet, Pieds nus sur la terre rouge, aux éditions Lafond, ainsi que la BD Rouge Imba, à la boîte à bulles. Et vous pouvez également trouver des informations et des liens sur le site internet de l'association Kova Imba, Kovahimba. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles méditations philosophiques.